Bonjour tout le monde. Un autre dimanche, le 3 mai. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la tribulation. C'est un sujet assez, assez noir. Donc, il va falloir s'accrocher. Alors, vous allez vous rappeler les deux dernières deux fois. Nous avons parlé du retour de Christ, donc le quand et le pourquoi. Le retour de Jésus est imminent. Il viendra juste au bon moment. Et il reviendra pour accomplir ses promesses. J'ai expliqué que le temps de la fin s'étend depuis la première venue de Jésus jusqu'à son second venu. Donc déjà, ça fait à peu près 2000 ans. Donc j'ai fait un dessin que je vais vous expliquer, pour expliquer certaines choses. Alors. C'est pas trop focalisé. Mais bon, je vais expliquer. Donc, depuis Daniel jusqu'au retour du Christ, il y a une expression dans la Bible qui s'appelle le temps des nations. Ça correspond plus ou moins à cette donc l'image de Nebuchadnezzar dans son songe de Daniel chapitre 2, dit sur son côté pour être chronologique, depuis donc Daniel, donc le roi Nebuchadnezzar, jusqu'à ce que Jésus revienne pour établir son royaume. D'accord? Après, on a parlé des 69 semaines et le 70e semaine. Donc, à partir du moment que la proclamation était faite pour que la ville de Jérusalem soit reconstruite, jusqu'à la mort du Messie, donc la crucifixion, il y avait 69 semaines, donc une semaine vaut 7 années. Donc, 69 semaines d'années. Par la suite, il y a une parenthèse où nous habitons dans notre époque, l'Église, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Et à la fin de notre parenthèse, il y a la 70e semaine d'Israël dans cette prophétie. Je voulais noter aussi que le temps de la fin, comme je viens de dire, commence avec le premier venu de Jésus jusqu'à son seconde arrivée. Donc, il arrive en Apocalypse, chapitre 19. Et il y a une expression, le jour de la colère de Dieu. Et là, on parle encore du 70e semaine. Donc, voilà, quelques pensées, j'espère que ça vous aide. Donc, aujourd'hui, nous répondons plus ou moins à la question comment Jésus va revenir. Comment va-t-il revenir? Après avoir repris l'Église, Jésus reviendra plein de colère pour exercer ses jugements en déversant la colère de Dieu contre la civilisation humaine qui sera toujours en rébellion contre le Dieu créateur. Comme je vous ai dit, le 70e semaine s'appelle aussi le jour de la colère de Dieu. La tribulation commencera après que Jésus aura tenu sa promesse, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, sa promesse à l'Église véritable, à la garder en dehors de l'heure de la tentation, donc ce mot tentation, ça veut dire aussi épreuve, calamité, affliction. Donc Jésus a promis de garder en dehors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc on va revenir sur cette question de l'enlèvement après le message pour ceux qui peuvent rester avec nous. Donc, une fois que le Seigneur aura mis à l'abri les derniers vrais croyants, les derniers vrais chrétiens, la tribulation commencera. Aujourd'hui, nous allons parler de cette année qui constitue, comme j'ai déjà dit, le 70e semaine de la prophétie de Daniel. Il y avait 70 ans, 69 ans étaient accomplis à la crucifixion de Jésus et la 70e semaine est toujours à l'avenir. Cette semaine s'appelle aussi, dans Jérémie, l'angoisse pour Jacob. Alors, dans Daniel, chapitre 9, verset 27, nous lisons Il. Donc, il, c'est le chef dans le contexte, et ça fait référence à l'Antichrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, une semaine étant la 70e semaine. Et au milieu de cette semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur, ce mot fait référence encore à l'Antichrist. Le dévastateur commettra les choses le plus abominable, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur, donc l'Antichrist. Rappelez-vous qu'une semaine dans cette prophétie vaut 7 années. Donc la 70e semaine, c'est donc les 7 dernières années de la prophétie de la tribulation, les 7 années de la domination du dévastateur, c'est-à-dire l'Antichrist. Et c'est une prophétie qui reste toujours à s'accomplir. Cette 70e semaine est aussi le sujet dans Matthieu 24 et dans l'Apocalypse chapitre 6 au chapitre 19. C'est un temps de sévère détresse et angoisse. Nous lisons dans Daniel chapitre 12, ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu, il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Puis, dans le verset 11, un peu plus loin, il dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et puis sur le même sujet, Jésus, dans Matthieu chapitre 24, le verset 15, 21 à 22, il va dire, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc il fait référence évidemment à l'abomination du dévastateur, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, donc Daniel en a parlé 6 fois, quand vous voyez ça établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Car, donc je saute au verset 21, car alors, à ce moment-là, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et il n'y en aura jamais. Et Jésus continue, il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé, donc personne ne conservera sa vie. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Maintenant, je vais vous lire un texte assez long. Vous pouvez chercher, si vous voulez, dans Jérémie, chapitre 30. Je ne vais pas lire tout le chapitre, c'est très long. Je vais lire Jérémie, chapitre 30, verset 3, verset 4 à 7, verset 9, verset 11, et puis verset 22 à 24. On aurait pu lire tout le chapitre, mais ça prendrait beaucoup de temps. Chapitre 30, Jérémie 30, verset 3. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi.
c'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. En principe, ça devait être cette année de paix, et non, ce n'est pas la paix. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Réponse, non. Eh bien, pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont devenus pâles? Verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. On voit bien que Daniel, Jésus et Jérémie parlent tous de la même chose. Mais il en sera délivré. Verset 9. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Il parle à Israël. Verset 22. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voici le temple de l'Éternel. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Il fonde sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. C'est une longue prophétie. Donc, dans ces trois passages, Daniel, Matthieu et Jérémie, ils insistent que ces sept années seront les pires de l'histoire. Des détresses inimaginables, la terrible colère de Dieu. Comme à travers les labeurs d'une naissance. Dieu parle de son projet de rétablir le royaume de David, donc Jésus le Messie, après avoir châtié Israël pour ses infidélités et d'avoir vaincu tous les ennemis de Dieu. Dans les versets 3, 9 et 22 de Jérémie chapitre 30, hein, on voit l'objectif de Dieu est d'amener la justice éternelle et oindre le saint des saints. Donc, c'est une phrase qui vient de Daniel, mais c'est ce qui est en vue dans le texte de Jérémie. Nous voyons aussi les promesses de la gloire à venir sous le règne de David. Alors, nous parlerons de ces choses la semaine prochaine. Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser quelques principes d'interprétation. C'est très important dans la compréhension prophétique. Première chose, Dieu dit toujours la vérité. Seconde chose, Dieu ne se contredit jamais. Une contradiction serait comme un mensonge. Troisième chose, Dieu tient ses promesses. Quatrième, les prophéties s'accordent. En particulier, elles s'accordent avec le plan prophétique global dans Daniel 2. Donc, je vais vous montrer ce plan encore. Donc, on a le cours de la civilisation dans la prophétie. Donc, la fin de la civilisation, c'est les orteils. Je ne vais pas tout expliquer. Mais le roc va écraser les pieds des orteils pour devenir le royaume de Christ, une montagne qui remplit toute la terre. Donc, c'est un royaume, le royaume millénaire est pour toute la terre et par la suite entre dans l'éternité. Mais tout le schéma prophétique doit s'accorder avec cette prophétie dans Daniel 2. Cinquième chose, c'est que la littérature biblique utilise souvent, assez souvent, le mécanisme de revenir au récit précédent pour élaborer certains points. Et ceci peut être aussi vu comme des parenthèses qui expliquent ou qui clarifient ce qu'il vient de dire. Ce principe est très important dans l'étude de l'Apocalypse. Parlons donc de la tribulation. Dans le monde chrétien et dans le monde non chrétien, l'idée d'une tribulation ou d'une période apocalyptique nourrit l'imagination de beaucoup de personnes, ce qui donne suite à toutes sortes de débordements imaginaires. Cela n'est pas le point de ce message. Nous nous intéressons seulement à ce que la Bible enseigne. La Bible contient beaucoup d'informations concernant ces sept horribles années de la tribulation. Nous venons de lire une partie de Jérémie 30. Il y a aussi Matthieu 24, il y a Marc 13, il y a Luc 21, il y a 1 Thessaloniciens chapitre 14, 2 Thessaloniciens chapitre 2, il y a Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, et il y a plusieurs chapitres dans le livre de Daniel qui parlent tous de cette période que nous appelons la tribulation. Donc, le message que je vous apporte aujourd'hui se repose sur tous ces passages, mais non pas sur mon imagination. Et je voudrais dire aussi que je ne prétends pas avoir une nouvelle révélation à ce sujet. Aujourd'hui, je donne seulement un aperçu à ce que la Bible enseigne sur la tribulation. Donc, je viens de vous montrer le tableau, le petit dessin de Daniel chapitre 2, qui prophétise que le roc, qui est le Seigneur Jésus-Christ, va venir frapper et détruire les pieds, les orteils de fer mélangés d'argile. Ces orteils de fer et argile représentent les dernières alliances politiques du parcours de la civilisation humaine. Ces dernières alliances politiques seront le règne de l'Antichrist. Daniel développe ce thème dans chapitres 7, 8, 9, 11 et 12. Donc, je vous raconte, énumère donc tous ces chapitres parce que vous pouvez par la suite revenir faire toute cette lecture vous-même. Mais pour moi, je fais qu'une genre de synthèse de toute cette information. Donc, Jésus reprend ce thème, donc le même sujet, la tribulation, dans Matthieu 24. Et quand Jésus en parle dans Matthieu 24, il renvoie ses auditeurs au livre de Daniel. Dans sa révélation donnée à Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 6, Jésus résume la totalité des sept années de la tribulation. Puis, dans Apocalypse, chapitre 8 à 19, Jésus revient, comme je vous ai dit, le principe d'interprétation, Jésus revient pour donner plus, beaucoup plus de détails sur les dernières 3 ans et demi de cette 70e semaine. Donc, on va avoir un aperçu de la tribulation. Je vais le faire en quatre parties. Premièrement, Apocalypse chapitre 6 et 7. Par la suite, Apocalypse chapitre 8 à 19. Donc, évidemment, c'est un résumé. Par la suite, je vais donner quelques points recueillis dans Daniel, Jésus, Paul et Jean. Et à la fin, je vais donner une description de l'Antichrist. Donc, quelle partie de cet aperçu de la tribulation? Apocalypse, chapitre 6, avec la parenthèse du chapitre 7. Donc, c'est le même principe que je vous ai dit. Quand vous lisez Apocalypse, chapitre 7, Jésus va dire, « Ah, il ne faut pas faire chapitre 6 avant que j'ai mis en place chapitre 7. » Parce que c'est une parenthèse, mais qui est avant chapitre 6 chronologiquement. Donc, on a Apocalypse, chapitre 6, avec la parenthèse du chapitre 7, présente un survol des sept années de la tribulation. Donc, tout au début de la tribulation, Dieu va appeler à son service 144 000 évangélistes juifs et les protégera durant les sept années. Ceci veut dire, donc j'ai fait le calcul, ceci veut dire, en moyenne, 575 évangélistes juifs pendant la tribulation ou, fait une autre façon de calcul, un évangéliste pour tous les 50 000 personnes à travers la terre. C'est pour cela qu'il y aura beaucoup de convertis pendant la première moitié de la tribulation et d'innombrables martyrs pendant la seconde moitié de ces sept années. La tribulation sera marquée par les guerres, les massacres, les famines, des phénomènes catastrophiques. Le début du règne de l'Antichrist, un règne anti-Dieu, soutenu par le faux prophète, la séduction, les mensonges, des miracles et des prodiges. Il y a la complicité de la fausse religion appelée Babylone la Grande, un genre d'amalgame de toutes les fausses religions depuis Babel. Et c'est un genre d'écuménisme. Par la suite, dans Apocalypse chapitre 8 à 19, on rajoute de nombreux détails qui focalisent sur les dernières trois ans et demi de la tribulation. Okay? Donc, les fléaux des années, des trois ans et demi précédents, continuent, mais s'intensifient grandement. L'Antichrist obligera une marque numérique sur chaque personne pour effectuer toute transaction commerciale sous peine de mort. L'apogée de la technologie numérique et robotique aura son jour par le robot, que je vais appeler le robot. C'est une image de l'Antichrist qui est quasiment vivant. Il y a la persécution acharnée contre les Juifs et tous ceux qui seront convertis à Jésus. Donc, comme on a déjà dit, beaucoup, beaucoup de martyrs. Il y aura les deux prophètes, Enoch et Élie. Donc, Élie, c'est sûr, je pense que l'autre s'appelle Enoch. Comme Moïse, ils feront venir les jugements de Dieu. C'est eux qui les font tomber sur le royaume de l'Antichrist. La fréquence et l'intensité des manifestations de la colère de Dieu augmentent, comme les douleurs de l'enfantement. Il y aura la destruction de Babylone la Grande, avec son pouvoir politique et son pouvoir religieux. Et puis, juste à la fin, il y aura le rassemblement des armées de la terre pour les batailles d'Armageddon. En plus de ces détails relevés dans l'Apocalypse, nous pouvons aussi relever, en résumé, d'autres choses dans d'autres livres de la Bible. Donc, je reprends depuis l'enlèvement. Suite à l'enlèvement, il y aura sept années d'extrême détresse sur toute la terre. Pourquoi? Car le Saint-Esprit, en se retirant du monde, ne retiendra plus la croissance du mal. Le mystère de l'iniquité, qui est déjà bien avancé, se multipliera et s'achèvera. Donc, en coordonnant ensemble les divers passages bibliques de Daniel, Jésus, Paul, Jean, concernant ces sept terribles années, nous pouvons voir premièrement, ceci est l'accomplissement de la 70e et dernière semaine dans la prophétie de Daniel 9. qui focalise sur Israël et non pas sur l'Église chrétienne. Car l'Église chrétienne actuelle ne sera plus. Il ne restera que la fausse Église apostate qui participera dans la fausse religion mondiale de Babylone la Grande. Deuxième point, l'ultime Antichrist, un faux Messie, viendra au pouvoir afin de sauver une planète qui va vers la destruction écologique et vers une ruine économique. Pendant ces 7 années, installé en Israël, il régnera sur la quasi-totalité de la terre. Troisième point, beaucoup de juifs et de non-juifs se convertiront à Jésus-Christ dès l'enlèvement et à travers la tribulation. Dès le début de ces 7 années, 144 000 de ces convertis seront des évangélistes juifs, donc deviendront tout de suite des évangélistes juifs, des juifs. Et Dieu prend soin d'insister sur le fait que ce sont des juifs, 12 000 hommes de chaque tribu d'Israël, et ils vont évangéliser le monde entier. Quatrième point, le nombre de convertis pendant les 7 années de la tribulation sera énorme. Et malheureusement, comme nous avons déjà vu, la grande majorité de ces convertis seront martyrs. Cinquième point, tout au début de la tribulation, l'Antichrist, qui se présentera comme un Messie, un faux Messie bien sûr, il fera un accord de paix avec les Israéliens qui doit durer 7 années. Les Juifs, pendant ce temps, vont reconstruire leur temple à Jérusalem et restaurer leurs sacrifices. Mais au bout de 3 ans et demi, l'Antichrist va rompre la paix et va démarrer une persécution antisémite comme on n'a jamais vu auparavant. Sixième point. Donc, vous voyez pourquoi l'angoisse pour Jacob, hein, à cause de cette horrible persécution. Vers la fin de son régime, sixième point, de nombreuses nations vont se rebeller contre l'Antichrist. Les armées de toute la terre viendront combattre contre l'Antichrist dans la vallée de Megiddo. Puisque l'Antichrist régnera de Jérusalem, eh bien, les armées de la terre viendront combattre contre lui en Israël. Et septième point, à la fin des 7 ans, pendant la bataille d'Armageddon, donc Apocalypse chapitre 19, Jésus-Christ descendra du ciel avec ses saints et il vaincra les armées de la terre et de l'Antichrist. La Bible dit « Tout œil le verra ». Tellement de monde mourra pendant ces batailles que le sang coulera en abondance et les oiseaux rapaces se nourriront. Et bien, bien sûr, Jésus, il revient pour délivrer Israël, pour vaincre le mal et pour établir son royaume sur la terre entière. Ce royaume va accomplir toutes les promesses restantes envers Israël et les chrétiens. Et nous allons parler de ces choses la prochaine fois. Regardons un peu plus près ce personnage que l'on appelle l'Antichrist. Le mot Antichrist signifie à la fois contre Christ et à la place de Christ. Nous lisons Donc, je vais lire dans trois versets. 1 Jean 4, 3, 1 Jean 2, 18 et 2 Jean 1, 7. Nous lisons 1 Jean chapitre 4, verset 3. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Donc nous notons dans ces versets de Jean que l'esprit de l'antichrist était déjà présent à son époque et il est encore présent aujourd'hui. Il se manifeste par des mensonges et par l'opposition à la vérité. Donc, je vais l'appeler l'ultime antichrist parce qu'il y a beaucoup d'antichrists qui sont entrés dans le monde et qui se sont manifestés à travers l'histoire. Mais l'ultime antichrist arrivera avec le début de la tribulation. Donc, je vais lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et nous allons lire de verset 3 jusqu'au verset 10. Donc, si vous voulez trouver ça dans votre Bible, 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire un christianisme antichrist, un christianisme antichrétien, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître, et par cela, ça veut dire que cette personne sera sur la scène politique, il sera adulte, hein, donc s'il vient demain, ça veut dire qu'il a déjà 25, 30, 30, 35, 40 ans, 50 ans, on ne sait pas. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'antichrist. Il y a plusieurs descriptions qui vont suivre. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, ce qui retient l'arrivée de l'Antichrist. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il, le méchant, l'antichrist, ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, l'antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Apocalypse chapitre 19, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Donc on voit que l'Antichrist sera, je ne donne pas tous les détails, un homme violent, faiseur d'actes abominables, un manipulateur dans les domaines de la politique et de l'économie, un homme anti-Dieu, anti-religieux, anti-bien, un trompeur qui se présente comme étant Dieu, en prenant la place de Dieu dans le futur temple à Jérusalem, qui recherche l'adoration des peuples par le biais des faux miracles et des faux prodiges. Un homme guerrier et meurtrier, collaborateur avec le diable, car celui-ci le possédera. Eh bien, le tableau que je viens de vous peindre de la tribulation et de l'Antichrist n'est pas beau. Est-ce l'arrivée de l'Antichrist que nous attendons? Devons-nous attendre l'Antichrist? Non. Non. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous recevra dans les airs au moment de l'enlèvement, juste avant le début de la tribulation. Comment faire pour attendre Jésus? Premièrement, il faut reconnaître que vous êtes pécheur, coupable et condamné. Puis, vous devez accepter le pardon que Jésus vous offre par l'Évangile. Et puis, troisième chose, étant chrétien, vous devez vivre pour votre Sauveur en attendant son retour. Alors, vous pouvez télécharger les PDF à ces sujets sur ce site. Donc, notez bien sans accent sur le mot réunion, hein, 123reunion.info. Vous pouvez télécharger les PDF à ces sujets. Bien que nous ayons parlé de ces choses prophétiques, l'information est plutôt facultative pour les chrétiens. Pourquoi? Car les chrétiens de notre éon, hein, de notre époque, de notre dispensation, ne sera pas présent pendant cette atroce épreuve de la tribulation. Vous pouvez compter sur les promesses de Jésus. Certes, la parole dit que nous aurons tous des épreuves. Elle dit aussi clairement que Jésus nous gardera en dehors de cette tribulation mondiale. Donc, il faut faire une distinction. Il faut bien faire une distinction entre les épreuves, les tribulations, les persécutions qui peuvent vivre des chrétiens aujourd'hui et même le martyr dans certains pays. Donc, faire une distinction entre ça avec celles qui auront lieu pendant les 7 années de la tribulation, qui touchera non pas simplement une localité, mais le monde entier. Il y a, je viens de dire que cette information est plutôt facultative pour les chrétiens, mais il y a quand même dans ces prophéties une partie qui vous concerne directement, qui n'est pas facultative, celle qui parle de votre confiance en Jésus-Christ. Ayez confiance en Jésus-Christ. Il accomplira à la lettre toutes ses promesses. C'était, je pense, le troisième point. Dieu tient toujours ses promesses. La prochaine fois, je parlerai du royaume de Christ et l'état éternel. Après la tribulation, il reste ces deux périodes prophétiques, hein, le royaume de Christ et l'état éternel. Il y a avant la fin, il y a le royaume du Christ. Et je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 et 26. Car il faut que le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça, c'est avant la fin. Et la fin, donc, après le royaume, sera l'état éternel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand Jésus remettra le royaume, il remettra le royaume, donc le royaume en premier et l'état éternel après. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et là, nous entrerons dans l'état éternel. OK, donc, pour ceux qui doivent partir, je vous souhaite une très bonne dimanche, une bonne semaine. Et pour ceux qui peuvent rester, donc nous allons passer à la deuxième partie, juste peut-être 10 minutes. Mais je voudrais parler de la vérité et des erreurs concernant l'enlèvement. Concernant l'optique protestante historique, donc je ne parle pas de tous les protestants aujourd'hui, je parle de l'optique protestante historique, je vais répondre à 4 questions. À propos de ce sujet, l'enlèvement. Pourquoi les protestants historiques ne croient-ils pas au millénium? Ils ne croient pas au futur royaume de Jésus. Pourquoi les protestants ont cru à l'enlèvement après la tribulation? Donc, cette doctrine commence avec les protestants. Pourquoi remplace-t-il Israël par l'Église? Pour eux, ils sont Israël. Enfin, l'Église est devenue Israël. Israël et l'Église, c'est la même chose. Et 4e, pourquoi traduisent-ils mal le mot ayon, le mot grec ayon? Pourquoi ils ne traduisent pas correctement quand ils traduisent la Bible? Donc, toutes ces 4 questions tourne autour de ma grande question, la vérité et les erreurs concernant l'enlèvement. Bon, la raison fondamentale, c'est qu'il y a 500 ans, à l'époque de la Réforme, en dépit de leurs grands efforts, les réformateurs étaient limités dû à leur contexte culturel et à leur vie grandement éprouvé par les persécutions qu'ils subissaient. On a fait l'observation que Jean Calvin avait écrit des commentaires sur tous les livres de la Bible, sauf l'Apocalypse. Donc, on pose la question, pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas le livre de l'Apocalypse. Tant mieux qu'il n'a pas écrit un commentaire quand il ne comprenait pas. Donc, Daniel avait prophétisé 10 ans. Donc, on est en Daniel chapitre 12, verset 4. Il a dit, « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs alors, donc plusieurs en ce temps futur, au temps de la fin, le liront et la connaissance augmentera. Ça donne l'idée que le plus qu'on vient vers la fin, plus on comprendra les choses. Cela ne nous étonne pas donc qu'entre le 16e et le 21e siècle, les chrétiens et fait beaucoup de progrès dans l'étude de la Bible, et en particulier dans ce domaine de la prophétie. Ces études bibliques ont fait ressortir l'enseignement de l'enlèvement avant la tribulation et le futur royaume de Christ suite à la tribulation. Ces deux doctrines, donc l'enlèvement et le futur royaume de Christ, résultent de ses études et ses recherches dans la Bible. Donc, ce sont des doctrines bibliques. Pour comprendre les erreurs d'autrefois et aussi de nos jours, revisons très brièvement quelques points historiques. Pour les premiers 3 siècles, tous les chrétiens croyaient que Jésus allait revenir établir son royaume. Tous les chrétiens pendant les 3 premiers siècles. Mais dans le 4e siècle, le christianisme s'est uni au gouvernement de Rome et les chrétiens n'étaient plus persécutés. Ainsi, ils vivaient confortablement dans le monde. Et comme l'Empire romain en Occident se désintégrait, les philosophes chrétiens ont promu l'idée anti-biblique que le monde était devenu le royaume de Christ. Ils enseignaient que Christ régnait sur le monde à travers l'Église et l'on arrivait plus tard à croire même que l'évêque de Rome était le représentant de Christ sur la terre. C'était l'optique du monde médiéval occidental. Alors, avec cette arrière-pensée que Christ règne à travers l'Église et vu l'extrême mondanité de la hiérarchie catholique du 15e et 16e siècle, les réformateurs pensaient à tort que le royaume millénaire de Christ avait déjà eu lieu, était déjà terminé et que le pape était devenu l'antichrist. De plus, les persécutions catholiques étaient tellement sévères que les réformateurs croyaient, encore à tort, ils croyaient vivre la grande tribulation de l'Apocalypse. Les réformateurs attendaient la fin du monde. Ils souhaitaient que Jésus arrive pour les enlever au ciel à la fin de cette longue tribulation qui, selon eux, devait terminer l'histoire du monde. Donc, ils ont traduit et traduisent encore aujourd'hui le mot grec aion par le mot monde. Normalement, c'est cosmos, monde, aion, époque. Ils traduisent encore le mot grec aion par monde au lieu de époque, âge ou ère. Puisque dans leur optique, donc c'est une optique fausse, mais dans leur optique, il n'y a pas d'avenir possible. Ceci est l'optique amillénariste, qui veut dire qu'ils pensent qu'il n'y aura aucun royaume futur. Et c'est aussi l'optique post-tribulationniste, c'est-à-dire la pensée que les chrétiens doivent subir la tribulation et que l'enlèvement va suivre la tribulation. Ces fausses idées sont encore populaires avec beaucoup de chrétiens. Ces deux fausses idées poussent les chrétiens à renier le futur royaume de Christ et aussi à renier la future restauration d'Israël. Pourtant, Romains chapitre 9, 10 et 11 parlent de cette future restauration d'Israël. Oui, en prenant comme base le catholicisme du Moyen Âge, les protestants ont gardé la fausse idée que Israël n'a pas d'avenir. Et sur cette fausse idée, ils ont allégorisé et approprié à l'Église toutes les promesses faites par Dieu à Israël, au point de croire à tort que l'Église est devenue Israël. Croire que l'enlèvement sera après la tribulation, donc le post-tribulationnisme, est une théorie aussi vieille que la réforme. Cette erreur a pris naissance dans la pensée des frères de l'époque à cause des circonstances et des expériences qu'ils vivaient. Comme est souvent le cas, il y avait un peu de vérité dans leur pensée, mais soyons clairs, le post-tribulationnisme n'est pas fondé sur les Écritures. Le post-tribulationnisme est imposé sur les Écritures à cause des expériences difficiles dans leur vie à l'époque de la Réforme. Donc on a d'un côté le pré-tribulationnisme, qui est un enseignement biblique. On a le post-tribulationnisme, qui est une doctrine non biblique, mais basée sur certaines choses bibliques et certaines expériences il y a 500 ans. Par la suite, dans le XXe siècle, sur une base hegelienne philosophique, certains chrétiens ont décidé de créer la pensée d'un enlèvement au milieu de la tribulation. On appelle ça le mi-tribulationnisme. Cette erreur est fondée sur une synthèse, une compromission entre les deux positions, pré-tribulationniste biblique et post-tribulationniste expérientielle. Étant une synthèse entre deux positions, elle n'a ni de base biblique, ni raison d'exister indépendamment des deux autres positions. Certes, elle semble correspondre avec quelques versets, mais elle est fondée sur une synthèse et elle n'est pas enseignée dans les Écritures. Elle est imposée sur les Écritures. Il existe encore un autre faux enseignement qui prétend qu'il y aura un enlèvement partiel. Selon cette erreur, Jésus va revenir chercher seulement certains croyants et non pas les autres. L'erreur de cette fausse doctrine est facilement démontrée par les mots « tous » et « nous tous » dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51-52. Et aussi par le mot « tous ensemble » dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 17, où nous lisons « Nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Il n'y a aucune idée de « il va prendre cela et laisse le reste. » Notre époque, notre aïon, est la période depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. La Bible enseigne qu'à la fin de notre époque, les croyants encore vivants, à ce moment-là, seront tous ensemble élevés à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Eh bien, ça sera un miracle. Quand on y pense, quand on y pense, on voit que l'enlèvement avant la tribulation est conforme au caractère de Dieu. C'est exprimé dans la prière d'Abraham concernant le jugement de Sodome quand son neveu était encore là. Donc je lis dans Genèse chapitre 18 et verset 25. Abraham, dans sa prière, dit à Dieu, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Le caractère juste de Dieu ne le permettra pas de juger les justes en même temps que les méchants. Les chrétiens de notre époque ne peuvent pas subir avec les méchants la colère de Dieu à travers la tribulation. Un enlèvement avant la tribulation est conforme aussi au fait que aucun juste n'est mort dans le déluge au temps de Noé. Dieu a mis Noé et sa famille à l'abri pendant le déluge, comme Dieu nous mettra à l'abri pendant la tribulation. J'espère que ces pensées vous aident à maintenir une position qui honore la parole de Dieu, qui honore Jésus, en qui vous devez toujours avoir confiance. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.